Chers auditeurs, dans les premiers mois de 1927, parurent à Rome divers documents concernant les confesseurs et la conduite à tenir aux forts internes et aux forts externes à l'égard des insoumis, enjoignant aux évêques d'appliquer les sanctions canoniques aux prêtres qui ne respecteraient pas l'interdiction d'administrer les sacrements à ceux qui persisteraient dans leur insoumission. Les cardinaux, archevêques et évêques de France, publièrent de leur côté une ordonnance relative à la conduite à tenir à l'égard des membres partisans insoumis et connus comme tels de l'Action française pour les mariages, sépultures, baptêmes, confirmations et œuvres pies. Des catholiques basques et béarnais préférèrent demeurer loin des sacrements et risquer la sépulture purement civile plutôt que de renoncer à la lecture de leur quotidien. L'autorité diocésaine dut refuser la présence d'un prêtre aux obsèques d'une personnalité fort connue pour ses engagements dans l'Église. Divers incidents émaillèrent encore la vie diocésaine, comme par exemple la fameuse lettre du père Le Floch, l'ancien supérieur du séminaire français de Rome, qui dut renoncer à sa charge pour ses accointances avec l'Action française. Un entrefilé paru dans le courrier de Bayonne souleva la colère de Mgr Gieure, qui écrivit à l'abbé Lamarque, collaborateur habituel du courrier de Bayonne, interdisant aux prêtres d'écrire désormais dans ce journal. « Je souhaite sincèrement, ajoutait-il, de n'avoir pas à user de sanctions plus sévères. » Plusieurs années s'écoulèrent pendant lesquelles beaucoup de consciences furent troublées, voire déchirées, entre les directives de l'Église et un attachement admiratif au combat mené par l'Action française. Un changement à la tête du diocèse, puis au sommet de l'Église, faciliteront le retour à plus de sérénité et même à la paix. Quelques semaines après l'accession de Pie XII à la papauté, les dirigeants d'Action française signèrent une déclaration de soumission sans réserve. La fin de la guerre et l'arrivée au pouvoir de la Chambre Bleu Horizon permirent un certain apaisement dans les relations entre l'Église et l'État, et le diocèse de Bayonne, à travers les paroles et les attitudes de son évêque, s'associa aux événements qui marquèrent le retour à la paix civique. En 1920, le bulletin religieux signalait que tous les députés des Basses-Pyrénées avaient voté pour la reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. En mai 1921, la France célébra officiellement et solennellement la fête nationale de Jeanne d'Arc, adoptée à l'unanimité l'année précédente par les députés. À Bayonne, toutes les autorités civiles et militaires sont présentes aux célébrations religieuses du 8 mai à la cathédrale. Le charme allait être rompu par les élections législatives de 1924 qui virent la victoire du cartel des gauches et de son programme anticlérical. Celui-ci prévoyait l'introduction des lois laïques en Alsace et Lorraine, la suppression de l'ambassade auprès du Vatican, la réactivation des lois contre les congrégations religieuses et la mise hors de la loi de la jeunesse catholique, etc. On se serait cru revenu 20 ans en arrière. En août 1924, Mgr Gieure publia une lettre pastorale sur les devoirs de l'heure présente, reprenant ainsi le titre de l'une de ses premières lettres pastorales en 1906. Puisque le gouvernement inaugurait son action par une déclaration de guerre aux catholiques, Mgr Gieure, comme en 1906, décréta la mobilisation générale de ses troupes. On pensa organiser de grandes manifestations où l'on proclamerait haut et fort ses convictions et à l'issue desquelles seraient adoptées des déclarations et des motions qui seraient adressées en haut lieu. Le premier de ces meetings eut lieu à Bayonne, au Grand Séminaire, le 26 octobre 1924, où 15 000 hommes se réunirent pour écouter Mgr Gieure et l'abbé Berger. La deuxième eut lieu à Pau et réunit 20 000 catholiques autour de Mgr Gieure, de l'abbé Berger et de M. Delassens, ancien maire de la ville. C'est à l'issue de ce meeting que Mgr Gieur, après avoir reconnu que le succès de la journée était dû en grande partie au journal Le Patriote, nomma son directeur chanoine honoraire de la cathédrale. Dans la foulée du succès des meetings de Bayonne et de Pau, Mgr Gieur pensa établir dans le diocèse l'Union catholique des hommes. Chaque paroisse devait avoir son groupe dirigé par un comité paroissial. Un des premiers actes du comité diocésain fut de faire parvenir à Mgr Serretti, nonce apostolique, une adresse de protestation contre la fermeture envisagée de la nonciature. Son but était également d'instruire les catholiques par des conférences. Mais les projets anticléricaux du cartel des gauches ne purent survivre à la chute du cabinet Herriot en 1925. Cependant, on pensa qu'il ne fallait pas renoncer à la tradition des réunions diocésaines. Le 1er août 1926, 40 000 personnes vinrent à Orthès écouter Mgr Gieur, l'abbé Berger, le député Barnegaray et le général de Castelnau. Un autre meeting se tint à Bayonne l'année suivante au parc du collège Saint-Bernard. Il semble qu'à partir de là, l'activité des unions se soit ralentie. Le contexte politico-religieux changeait en effet. L'attitude de l'Église à l'égard du régime républicain va peu à peu se modifier dans les années 30. Déjà dans l'immédiat après-guerre, sa situation civile s'était clarifiée. Elle reposait désormais sur des bases sûres et reconnues. En effet, après des négociations longues et laborieuses entre le Vatican et le gouvernement, on s'était mis d'accord sur les statuts d'une association culturelle qui respectait à la fois les lois de la République et celles de l'Église hiérarchique. Cette association permettait au diocèse d'avoir une personnalité juridique et une capacité économique limitée, il est vrai, mais réelle. Pie XI ayant donné l'autorisation de fonder des cultuelles diocésaines, Mgr Gieur se rangea immédiatement parmi les évêques qui acceptèrent les associations diocésaines et il procéda à la constitution de celle de Bayonne. L'Église pouvait désormais acquérir et posséder légalement église, évêché, séminaire, presbytère, maison de retraite. Mais rien de son ancien patrimoine ne lui était rendu, faisait remarquer Mgr Gieur. Cependant, l'association diocésaine pouvait recevoir des fondations cultuelles à perpétuité, des fondations de messes, de missions, etc. Et cette capacité de recevoir des legs sera améliorée par le régime de Vichy. La mobilisation qu'avaient suscité parmi les catholiques les velléités sectaires du cartel des gauches avait écarté tout danger de reprise de la persécution. Les Alsaciens et les Lorrains avaient fait savoir qu'ils restaient attachés au Concordat. Les religieux anciens combattants avaient proclamé haut et fort qu'ils ne partiraient pas et personne ne trouvait bénéfique la suppression de l'ambassade auprès du Vatican. L'Église était amenée à considérer sous un jour moins agressif et même bienveillant son attitude à l'égard du gouvernement républicain. Une affaire concernant la dévolution d'un legs lormand va illustrer cette même année le changement d'atmosphère et d'attitude entre l'évêque de Bayonne et les autorités départementales. Monsieur Lormand n'avait pas pensé seulement à la cathédrale et à sa remise en état. Il avait consenti un legs de 12 000 francs de rente annuelle en faveur des prêtres âgés ou infirmes du diocèse de Bayonne. Et ce legs, à la suite de la loi de séparation, avait été attribué au département des Basses-Pyrénées. Le 5 septembre 1932, Mgr Gieur adressait une requête au président du Conseil général, qui était M. Louis Barthoux, pour qu'il veuille intervenir auprès des conseillers généraux et obtienne d'eux que ce titre de rente soit remis à l'association diocésaine qui assurerait l'exécution des volontés du fondateur. Mgr joignait à sa requête une lettre personnelle pour le président Barthoux. À cette lettre, dont la courtoisie, sans le surprendre, l'avait profondément touché, M. Barthoux répondit en se portant garant du libéralisme et de l'équité du Conseil général, et il assurait Mgr l'évêque qu'il saisissait M. le préfet de sa demande pour qu'elle soit mise à l'étude sans délai. À l'unanimité, les conseillers généraux s'y étaient montrés favorables. Le ministère de l'Intérieur répondit que cette nouvelle dévolution présentait des difficultés juridiques insurmontables. Mais sur proposition de M. Barthoux, l'affaire fut renvoyée à la Commission des finances pour lui trouver une solution. Le rapporteur de la Commission des finances, qui était le député Garat, proposa alors d'affecter chaque année le montant du revenu de la rente à des secours pour les prêtres âgés, et le Conseil général vota cette mesure à l'unanimité. Mgr l'évêque rendit publiquement hommage à M. Louis Barthoux, et après avoir remercié tous les acteurs de cette heureuse solution, il ajoutait « Sans doute nos prêtres vous seront reconnaissants de leur avoir rendu le secours matériel que leur destinait M. Lormand et qui à l'heure actuelle leur est précieux. Mais je peux l'assurer, ils seront plus touchés de cette constante unanimité qui s'est faite sur leur nom et en leur faveur. Ils y verront, comme je l'y vois moi-même, un hommage officiel à la vertu, au savoir, au dévouement du clergé basque et béarnais. » En 1934, le bulletin religieux s'associait au deuil qui frappait le pays à la suite du décès du président Poincaré et, à quelque temps de là, de la mort tragique de Louis Barthoux, qui avait été mortellement blessé par un terroriste à côté du roi Alexandre Ier de Yougoslavie. Quelque temps auparavant, le diocèse s'était joint également à toute la France pour un hommage à l'égard de Paul Doumer, président de la République, qui avait été assassiné. Mgr Gieure adressa à ses diocésains une lettre circulaire publiée dans le bulletin religieux dans laquelle il présentait la personnalité du défunt avec une certaine sympathie. La France perdait donc à quelques jours d'intervalle deux grands hommes d'État, M. Poincaré et M. Louis Barthoux. Après avoir rappelé pour le regretter qu'ils avaient cru mieux servir l'amour de la France en refusant de le soumettre à Dieu, le bulletin religieux soulignait que la guerre leur avait montré cruellement leur erreur. En visite au front, Poincaré en 1915, Barthoux en 1916, affirmait la puissance du sentiment religieux pour le service de la patrie en danger. Poincaré eut une mort chrétienne. Notre compatriote Barthoux avait à plusieurs reprises saisi avec empressement les occasions qui se présentaient de montrer ce qu'il appelait son libéralisme. Le bulletin religieux rappelait l'attitude de M. Barthoux dans l'affaire du legs Lormand et il invitait les fidèles du diocèse à prier pour lui en assistant au service religieux qui allait être célébré pour le repos de son âme. Les autorités civiles et religieuses ne vont plus se départir de cette courtoisie dans leurs relations officielles. Elles en témoigneront à quelque temps de là, à l'occasion du sacre de Mgr Roubaud, successeur de Mgr Gieure et de son intronisation à Bayonne. Nous verrons la prochaine fois la fin du pontificat de Mgr Gieure.